Bonsoir à tous. Vous m'impressionnez, j'ai l'impression d'être devant un jury de thèse. Alors il est 15h, on va peut-être se lever pour prier ensemble. On va invoquer l'Esprit Saint. Cela pourrait surprendre, voire choquer, si l'on considère en effet que la célébration eucharistique est une spécificité catholique, voire orthodoxe, d'une certaine façon anglicane aussi, et si d'autre part on intègre que la chrétienté déborde les limites de ses espaces confessionnels, on peut avoir du mal à comprendre cette affirmation, puisqu'une frange relativement importante de la chrétienté ne célèbre pas de messe, en tout cas pas au sens où nous la vivons partout. De fait, les protestants de diverses formes les pentecôtistes et toutes les autres dénominations que nous connaissons désormais, n'articulent pas leur vie chrétienne autour de la messe, et ils sont pourtant chrétiens. Alors, comment comprendre cette affirmation selon laquelle la messe, l'Eucharistie, constitue le cœur du mystère chrétien? Ne serait-il pas plus juste de réaffirmer simplement que le christianisme se fonde sur l'avènement de la mort et de la résurrection, l'événement, pardon, de la mort et de la résurrection du Christ, comme le relève saint Paul dans son enseignement? Pour Paul, en effet, il faut le rappeler, si le Christ n'est pas mort et ressuscité, vaine est notre foi. Nous sommes là dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, le verset 14. Et donc, d'une certaine façon, il serait plus accommodant de considérer cet élément-là, cet événement, la mort et la résurrection du Christ, comme étant le cœur du mystère chrétien, plutôt que de considérer la messe comme étant cela. Dès lors, affirmer la centralité de la messe pour le mystère chrétien, n'est-ce pas remettre en cause les efforts œcuméniques qui sont accomplis depuis un certain temps déjà? Sinon, comment comprendre une telle affirmation? Et que dire de ces nombreuses personnes que nous connaissons et qui se définissent elles-mêmes comme chrétiens non pratiquants, parce que n'allons pas régulièrement à la messe? Parce que allons à la messe, quelqu'un m'a dit récemment, quand un Français dit « je suis chrétien non pratiquant », ça veut dire qu'il va à la messe quand il y a un mariage ou un deuil dans la famille. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va à la messe à Pâques. Donc, ces personnes sont aussi des chrétiennes et même des catholiques. Et pourtant, elles ont un rapport un peu différent que le nôtre par rapport à la messe. Être chrétien, d'ailleurs, n'est-ce pas finalement, à la lumière de ce thème, aller régulièrement à la messe? Comment, d'ailleurs, comprendre ces paroles de Jésus qui sont au cœur de cette célébration? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Faut-il rappeler ici que ces paroles avaient choqué, y compris parmi les disciples de Jésus, puisque certains avaient d'ailleurs décidé de ne plus le suivre. Lisons dans Jean au chapitre 6, le verset 52. Comment celui-ci peut-il me donner sa chair à manger? Que signifie cette réaction des disciples? Avouons-le, il nous est parfois aussi arrivé à nous de nous interroger dans les mêmes termes que les disciples. Si nous continuons tout de même de vivre ce mystère, ce n'est pas toujours parce que nous avons saisi l'entièreté de sa signification, et heureusement. Parce que si nous parvenons à saisir l'Eucharistie dans sa totalité, en quoi serait-elle un mystère encore? Elle est un mystère, la messe, bien sûr, parce que nous la comprenons d'une certaine façon, mais nous n'en avons pas la totalité de la compréhension. C'est cela le mystère au sens chrétien. Quoi qu'il en soit, la centralité de la messe fait réfléchir, et je crois qu'il faut bénir à nouveau le Père Amaury et son équipe, le AP, de nous avoir inspirés aujourd'hui de réfléchir ensemble sur cette réalité déterminante de notre identité chrétienne. La messe, pour répondre aux objections que j'ai volontairement déjà exposées, la messe est la célébration du mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre, d'un côté, l'événement central de notre foi, qu'est la mort et la résurrection du Christ, et la célébration de la messe, et c'est cela que je voudrais que nous découvrions à présent. Notons déjà qu'il n'y a pas de contradiction. La mort et la résurrection de Jésus est au cœur de la célébration eucharistique. Selon l'enseignement de l'Église, la messe représente précisément le moment et le lieu où l'événement pascal de Jésus se fait institution, tout en demeurant l'événement personnel de Jésus. Elle est le sacrement du sacrifice unique de Jésus. Il y a donc un lien intrinsèque entre ce que nous célébrons au quotidien dans la messe et ce qui s'est accompli une fois pour toutes dans l'histoire de l'humanité, à savoir la mort et la résurrection de Jésus. Parler de sacrement et de sacrifice, comme je viens de le faire, cela, vous me direz, n'aide pas nécessairement à clarifier les choses, et vous aurez raison. C'est pourquoi il me semble important de commencer par clarifier les choses en donnant la signification à la fois du sacrement et du sacrifice tel que nous en parlons ici. L'unique sacrifice qui nous a obtenu le salut a été accompli par Jésus et il l'a fait une fois pour toutes. Il l'a fait par amour pour l'humanité. Il a donné sa vie pour que, par sa mort, nous ayons la vie. Il est mort sur la croix, et par cet acte, il a aboli tous les sacrifices anciens, de sorte que plus jamais il ne soit nécessaire de sacrifier qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Sur la valeur de ce sacrifice, l'apôtre Pierre, en reprenant les paroles du prophète Ésaïe, au chapitre 53 du livre d'Ésaïe, versets 5 à 6, l'apôtre Pierre, reprenant ces paroles, affirme ceci. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Nous sommes dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 24 à 25. Évidemment, on pourrait s'interroger sur ce Dieu, qui pourrait sembler cruel, qui, pour sauver les hommes, a eu besoin que son Fils unique mourût de cette façon, de façon aussi sanglante, sur une croix. Cette interrogation est d'autant plus vraie que, de manière spontanée, nous n'envisageons le sacrifice, nous l'envisageons souvent que de façon négative, en y voyant que la privation et la souffrance qu'il implique. Il faudrait peut-être que nous écoutions saint Augustin, le saint évêque d'Hippone, pour qui le vrai sacrifice désigne toute œuvre bonne qui contribue à nous unir à Dieu. Le sacrifice, de ce point de vue, apparaît comme un acte de don de soi, un geste d'amour. Il me plaît ici de ramener à vos souvenirs, notamment celles d'entre vous qui ont eu le bonheur d'enfanter, de ramener à vos souvenirs ce que vous avez vécu à ces moments. Aujourd'hui, les accouchements se passent dans des conditions relativement simples, mais il existe encore des contrées où donner la vie est un véritable challenge, un véritable défi, parce que malheureusement, dans des parties du monde, des gens meurent encore, des femmes continuent de mourir parce qu'elles donnent la vie. J'ai une amie médecin qui est décédée il y a 10 jours à peu près, porteuse d'une grossesse jumelaine, et voilà. Donc, c'est encore une réalité. Mais sans arriver au drame de la mort, vous savez que donner la vie, ben cela implique un certain nombre de souffrances, un certain nombre de privations qui entrent dans la catégorie de sacrifices. Mais pourtant, tous ces sacrifices n'ont pas de commune mesure avec le bonheur d'une mère qui vient de recevoir dans ses bras l'enfant à qui elle vient de donner la vie. Voilà une réalité qui nous permet aussi, à la suite d'Augustin, de voir le sacrifice de façon moins négative, en étant davantage attentif à la vie que le sacrifice implique aussi, au bonheur qu'il suscite, et non plus simplement aux privations et aux souffrances qui peuvent l'entourer. Vous savez aussi, par exemple, que pour l'éducation de vos enfants, en tant que parents, vous êtes prêts à consentir à tous les sacrifices. Certains pourraient même payer le prix fort en donnant de leur propre vie pour le bonheur de leurs enfants. Ils ne le vivraient pas comme une privation, ils le vivraient comme quelque chose de bien, de grand et de beau, de fort, parce qu'à travers cela, ils donnent la vie à des personnes qu'ils aiment, qu'elles aiment, ces personnes-là. Voilà donc qui nous permet, encore une fois, d'envisager le sacrifice autrement que comme une simple privation, comme une somme de souffrance. Et c'est cela aussi qui nous permet de mieux comprendre, humainement parlant, parce que notre langage, il faut toujours avoir cela à l'esprit, va demeurer limité quand il s'agira de dire des choses aussi fortes, aussi profondes que celles qui se nouent entre l'humanité et Dieu. Avec donc les fragilités de notre langage, nous avons ces images qui nous permettent de nous rapprocher un peu dans la compréhension du sacrifice du Christ. Au-delà de la douleur réelle, au-delà du caractère sanglant de ces tristes événements, il y a que derrière, il y a un bonheur sans pareil qui nous est apporté par la mort et ensuite et surtout la résurrection du Christ. Par sa mort et par sa résurrection, le Christ a opéré le passage de cette vie à la vie auprès de Dieu son Père. Ce faisant, il nous a tracé la voie. Et l'Eucharistie, comme nous venons de le dire, réactualise ce sacrifice du Christ. Comme sacrement, la messe rend visible la grâce invisible que le Christ a obtenue à l'humanité en donnant sa propre vie. C'était drôle pour moi de préparer ce moment quand je suis arrivé à cette partie, parce que je me suis rappelé que petit, au catéchisme, on me donnait cette définition du sacrement. Les sacrements sont les signes visibles de la grâce invisible de Dieu. Et le sacrement des sacrements, le sommet de toute la vie sacramentelle et même de toute la vie de l'Église, se trouve dans la messe, dans l'Eucharistie. Par conséquent, l'Eucharistie, la messe, c'est donc le lieu où la grâce non quantifiable, non matérialisable de Dieu en faveur des hommes se rend visible par le moyen des sacrements, justement par le moyen des espèces que sont le pain et le vin. L'Eucharistie est un sacrifice dans sa réalité la plus profonde. Elle est l'acte à travers lequel le prêtre ou l'évêque, puisque ce sont eux qui sont compétents, habilités, non pas par le fait d'un mérite, mais par grâce, à accomplir le commandement de Jésus en reproduisant visiblement et en son nom, en sa personne, in persona Christi, comme diraient d'autres, le don sacrificiel par lequel Jésus s'est lui-même donné en nourriture à ses disciples. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je pense que c'est peut-être le moment le plus effrayant, le père Christian, au fond, il pourra vous le dire, le moment le plus effrayant de la messe pour le prêtre. Parce que le malin, le voisin d'en bas, comme l'appelle quelqu'un, pourrait facilement vous mettre dans la tête de vous parler là de vous. Mais en fait, lorsque je prononce ces paroles, ce n'est pas moi, Jean-David, qui parle. À ce moment, je suis vraiment un instrument au service de Dieu, au service du Christ. Ce sont les paroles du Christ et je suis, si vous voulez, une sorte de haut-parleur, un amplificateur de ce que le Christ dit à chacun d'entre nous, moi à moi en premier. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, mon corps à moi, j'en ai vu, pas suffisamment bien pour que je puisse vous le donner sur la vie. Et c'est donc un moment suffisamment fort et suffisamment grave dont il faut être conscient. Déjà, nous comme prêtres, mais aussi nous comme communauté, c'est-à-dire vous et moi, qui prenons part et qui célébrons ensemble l'Eucharistie. Ces paroles que Jésus prononce au cours du repas qui précède sa mort donnent toute la signification de celle-ci. Ce qui se passera sur la croix le vendredi saint est sacramentellement accompli la veille au cours de ce repas que l'on appelle la scène, c'est-à-dire le repas du jeudi saint, au cours duquel Jésus institue l'Eucharistie. Pour le théologien français Bernard Sesbouet, que j'aime bien et que j'ai recommandé à certains d'entre vous, la scène et la crucifixion de Jésus s'enchaînent dans une séquence unique du récit. Jésus, en partageant le pain et le vin, s'engage du même coup à aller jusqu'au bout de sa passion. Jésus met le point final à sa vie, commandé par l'amour du Père et le service de ses frères dans ce don de sa personne. Ce don est symbolisé chez les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, par le pain et le vin, et chez saint Jean par le geste du lavement des pieds. Parlons de ce geste avec le Père Éric, on se faisait la réflexion il y a quelques jours, comment on fait cette semaine sainte. Est-ce qu'il faut laver les pieds ou pas? Bref, les avis sont partagés, je le sais. Et donc, le fait d'ailleurs que la liturgie retienne pour le jeudi saint l'épisode du lavement des pieds plutôt que l'institution de l'Eucharistie, en tout cas pour l'Évangile, c'est aussi pour traduire ce lien d'unité, cette séquence unique qui s'opère entre le vendredi saint et le jeudi saint. Jésus traduit de façon concrète ce qui va se passer lorsqu'il va donner sa vie sur la croix en le vivant déjà de façon sacramentelle et anticipée le vendredi saint, en se donnant à ses disciples. Et il montre ce que cela implique dans la vie, être capable de se donner pour le service de nos frères et de nos sœurs. Laver les pieds de ses disciples, ce n'était pas une rhétorique, ce n'était pas... C'était vraiment pour donner le geste, le signe fort, l'engagement que nous prenons comme disciples vis-à-vis de Jésus, mais surtout vis-à-vis les uns les autres, à nous porter mutuellement, à nous rendre service mutuellement. Le sacrifice devient ainsi positif, car il est un don de soi pour le bien de tous. Voilà donc les deux éléments expliqués, relier, rattacher l'un à l'autre le sacrifice et le sacrement. Le sacrifice, c'est ce qui s'est historiquement accompli une fois pour toutes, et le sacrement, c'est le moyen que le Christ nous a donné de rendre présent tous les jours jusqu'à son retour ce qu'il a une fois pour toutes accompli. Le lien entre sacrifice et sacrement me semble donc désormais établi. Mais la messe n'est pas que sacrifice. Elle est aussi, selon le langage connu de la théologie chrétienne, le mémorial, toujours en lien avec ce qui s'est accompli le jeudi saint et le vendredi saint. Pour exprimer à la fois cette dimension sacrificielle et sacramentelle de la messe, la tradition chrétienne s'est servie d'un mot, le mémorial. Ce mot trouve son origine dans la Bible et il a d'abord servi à exprimer la Pâque juive. L'Église primitive l'a reçu à travers les paroles de l'institution de l'Eucharistie par le Christ lui-même. Quelque peu abandonné à partir du XIIe siècle, le mot mémorial refait surface dans la littérature théologique à partir du Concile de Trente. Le Concile de Trente, pour ceux qui ne le sauraient pas de quoi il s'agit du 19e Concile œcuménique reconnu par l'Église catholique. Il a été convoqué par le pape Paul III le 22 mai 1542 et il visait à répondre aux demandes formulées par Martin Luther et le courant protestant qui en a découlé. À Martin Luther et à Jean Calvin, à tous les deux, dans le cadre de la réforme protestante, justement. Ce concile a débuté le 13 décembre 1545 et s'est achevé le 4 décembre 1563. Le concile, pour faire simple, c'est une rencontre de tous les évêques du monde autour du pape pour réfléchir ensemble à des questions qui engagent la vie de l'Église au plus haut niveau. On parle de concile œcuménique pour traduire le caractère universel, même si, avec du recul, pour moi, c'est difficile de dire que le concile de Trente était œcuménique parce que l'Afrique n'y était pas représentée. Du moins, l'Afrique au sud du Sahara, parce que, d'ailleurs, l'Afrique du Nord appartenait au Grand Empire romain jusqu'à un certain temps. C'est difficile. Mais, voilà, l'idée reste quand même celle. Et donc, le mémorial, comme réalité théologique, à partir du XIIe, avait un peu disparu. Et il refait surface à partir du XVIe siècle, justement, avec le Concile de Trente. Dès lors, la messe se comprend comme le mémorial sacramentel de l'unique sacrifice accompli par le Christ sur la croix. Comme mémorial, la messe n'est pas un simple rappel à la mémoire, ni un souvenir. Elle est, par la grâce sacramentelle, une actualisation du sacrifice du Christ. Des mémoriaux, vous en connaissez. La France a une belle culture de la mémoire et de l'histoire, qui fait que dans toutes les villes, il y a, même dans les églises, il y a des monuments qui rappellent la mémoire. Mais il y a une grande différence entre ce type de mémoriaux, ces types-là, et le mémorial dont il est question quand on parle de l'Eucharistie. Et cette originalité du mémorial eucharistique, c'est qu'il s'agit d'abord et avant tout d'un acte accompli par le Christ lui-même, tandis que les autres mémoriaux sont des actes exclusivement accomplis par les héritiers. Quand on fait mémoire de Charles de Gaulle, c'est pas Charles de Gaulle qui fait mémoire de lui. Ce sont les Français qui font mémoire de nous. Quand on fait le mémorial eucharistique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas l'abbé Jean David, le père Christian, le père Amoury qui font d'abord mémoire du Christ. C'est le Christ lui-même qui se rend présent et qui agit à travers ses ministres que sont le prêtre ou l'évêque. Dans l'acte liturgique, donc, le prêtre ou l'évêque n'est en réalité qu'un instrument dont le Christ se sert lui-même pour réactualiser son unique sacrifice. Et là, j'ai un peu touché sur ma sensibilité d'ecclésiologue pour rappeler que l'Église, l'Ecclésia, comme on l'appelait aux origines, se rassemble non pas comme une assemblée proprement humaine, mais comme la réponse à une convocation que chacun de nous a reçue de la part de Dieu. C'est Dieu qui le premier prend l'initiative de nous rassembler. C'est lui qui nous adresse une convocation parce qu'il veut s'offrir à nous, comme j'aime à le dire, à travers sa parole et à travers son corps et son sang. L'Église est donc fondamentalement une réalité divine autant qu'elle est une réalité humaine. Il ne faut jamais trop insister sur un aspect au détriment d'un autre. Il faut toujours tenir les deux ensemble, et les savants ont rendu ça avec l'expression théandrique. L'Église est une réalité théandrique, c'est-à-dire qui assume à la fois une nature divine et une nature humaine. Et c'est cela qui fait la différence entre le mémorial sacrificiel sacramentel et les autres types de mémoriaux que nous pourrions connaître. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas l'œuvre de nous, humains, simplement, c'est d'abord l'œuvre du Christ. Et il nous y associe. Et cela est important, il faut bien le noter. Bernard s'est souvenu toujours, je l'aime beaucoup, parce que c'est un bon pédagogue, je fais un peu sa pub. Vous pourrez lire ses ouvrages de théologie, et même si vous avez peur au départ, vous vous rendrez compte que la théologie, c'est pas... C'est pas plus difficile que les mathématiques quand j'étais en société. Pour Bernard Sessouet donc, Jésus a voulu, en instituant l'Eucharistie, rendre son sacrifice présent et actif de manière universelle à travers le temps et l'espace. La croix, comme événement unique, et elle ne pouvait que l'être, risquait de tomber dans l'oubli comme cela arrive événement historique. Pour être ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire pour atteindre chacun des hommes dans le présent de leur existence, la croix avait besoin de l'Eucharistie, c'est-à-dire d'un mémorial qui actualise sa présence et son action de salut. Elle ne pouvait pas être comme événement de mort visiblement répété, car la condition de l'homme veut qu'il ne meure qu'une fois. Jésus a donc choisi la voie sacramentelle qui reproduit son dernier repas, institué par lui-même comme l'autre face de sa mort et de sa résurrection. C'est ce repas qui est définitivement repris en mémorial jusqu'à la fin du monde. Le terme mémorial permet donc d'unifier les deux réalités que sont la scène, le jeudi saint, et la croix, le vendredi saint. Ainsi, la messe, comme mémorial, actualise le sacrifice du Christ qui s'est accompli, non pas de façon double, mais une seule fois dans une même séquence à travers ces deux faces. Mais la messe est aussi le mémorial de la première Pâque, comme je l'ai dit. La première Pâque, celle du peuple hébreu, le peuple juif, et la seconde Pâque, la Pâque du Christ, dans laquelle nous sommes intégrés. La première Pâque est décrite par le livre de l'Exode qui expose la libération du peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte. Cette action est considérée comme l'œuvre de l'amour de Dieu et c'est dans ce cadre que Jésus a voulu lui-même célébrer sa propre Pâque. Souvenons-nous, quand nous vivons la Semaine Sainte, le repas de la scène a lieu pendant les fêtes liées à la Pâque juive. Et Jésus a donc voulu expressément que sa Pâque se tienne au cœur de la Pâque juive. Lui aussi a célébré sa propre Pâque, son passage de la mort à la vie. Et c'est cette Pâque qui est désormais la nôtre aujourd'hui et que nous actualisons à travers la célébration de la messe. La première Pâque, selon les recommandations de Moïse dans Exode chapitre 12, versets 32 à 38, était devenue un rite qui devait être transmis de génération en génération pour garder dans la mémoire du peuple l'action salvifique, salvatrice de Dieu le Père. Mais là, nous restons dans le mémorial au sens d'une certaine façon humain du terme, parce que la dimension sacramentelle n'est pas encore établie. Il y a une dimension rituelle, mais tout rite n'est pas sacrement. En revanche, le sacrement suppose une certaine ritualité. Alors, après donc avoir vu en quoi l'Eucharistie, la messe, est à la fois sacrifice et sacrement, après avoir vu comment la messe constitue un mémorial, je voudrais aborder un autre aspect très important de notre foi chrétienne, la question de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Dans le Nouveau Testament, quatre textes rapportent l'institution de l'Eucharistie. Les trois évangiles synoptiques, Matthieu au chapitre 26, les versets 26 à 29, Marc au chapitre 14, les versets 22 à 25, Luc au chapitre 22, les versets 15 à 20, et un texte de saint Paul, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 23 à 30, à 26. Au-delà de leur différence, ou plutôt de leur nuance, ces quatre récits ont en commun de rapporter les paroles de Jésus. « Ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang. » Chez Luc et chez saint Paul particulièrement, on note l'invitation explicite et formelle adressée aux disciples de refaire les mêmes gestes que Jésus. Il leur recommande, il les invite, il insiste sur le devoir qu'ils ont de réaliser les mêmes gestes. Vous ferez cela en mémoire de moi. En s'identifiant au pain et au vin qu'ils tenaient entre les mains, Jésus a lui-même établi la dimension sacramentelle que l'Église continue de vivre à travers la consécration du pain et du vin, qui deviennent ainsi le corps et le sang du Christ. La tradition de l'Église nous permet de comprendre comment les pères de l'Église ont vécu dans les premiers siècles cette réalité. Saint Justin, j'ai eu le bonheur de découvrir il n'y a pas longtemps qu'il était même un laïc, un des premiers pères de l'Église, parle de l'Eucharistie au IIe siècle en ces termes. Nous appelons cette nourriture Eucharistie. Personne ne peut y avoir part s'il ne croit vrai nos enseignements. S'il n'a reçu le bain pour le rejet des péchés et en vue de la régénération, et s'il ne vit comme le Christ nous l'a ordonné. Car nous ne prenons pas cet aliment comme un pain commun et une boisson commune, mais de même que, s'étant fait chair par la parole de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, a eu chair et sang pour notre salut. Ainsi, nous croyons qu'elle est chair et sang de ce Jésus fait chair, la nourriture eucharistiée, par la parole de prière venue de celui dont notre sang et nos chairs sont nourris par assimilation. Les apôtres, en effet, dans leur mémoire appelée Évangile, nous rapportent que Jésus leur ordonna ceci : « Faites ceci en mémoire de moi, ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Après Justin, au Moyen Âge, l'accent sera mis sur le texte de Paul qui insiste sur le corps du Christ comme principe de la communion entre tous les baptisés. L'apôtre Paul dit en effet, « Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car nous participons à cet unique pain. » 1 Corinthiens au chapitre 10, des versets 16 à 17. Par conséquent, si l'on est cohérent, si l'on accueille bien ce que dit l'apôtre Paul, on comprend que recevoir la communion, c'est s'engager à la construction du corps ecclésial, c'est refuser toute forme de division, car alors ce serait diviser le corps du Christ. Quand on parle de la communion, au-delà du corps du Christ qui est désigné par ce mot, le mot communion désigne aussi ce à quoi nous sommes engagés en recevant ce pain et ce vin. Nous nous engageons à construire ensemble la communion de ceux et celles qui ont fait le choix de marcher à la suite du Christ. Nous nous engageons à vivre l'unité. Et l'unité chrétienne a la particularité d'être une icône de l'unité divine qui s'exprime dans le mystère de la Trinité. C'est pour cela que certains théologiens considèrent l'Église ou la désignent comme étant icône de la Trinité. La communion, ce n'est pas de chercher à écraser les différences. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, il ne s'agirait plus de communion. La communion, ce n'est pas de gommer nos différences, non. La communion, c'est de comprendre qu'au-delà de ces différences légitimes, nous sommes appelés à vivre en harmonie. Et on ne peut d'ailleurs parler d'harmonie que dans la mesure où il y a des différences. L'harmonie suppose la diversité. L'harmonie suppose la multiplicité, si vous voulez, avec ceci que l'on ne considère pas ces différences comme étant des oppositions, mais comme étant des richesses, des façons différentes d'aborder la même réalité. Et c'est cela aussi que la communion que nous célébrons comme Eucharistie et que nous recevons suppose dans la vie de chacun d'entre nous et dans la vie du corps ecclésial que tous ensemble nous formons. C'est aussi à cette époque, donc au Moyen Âge, que l'Église a compris les trois modalités d'existence du corps du Christ. Quelles sont ces trois modalités ? D'abord, le corps historique ou biologique de Jésus, celui qui a été crucifié sur la croix. Ensuite, le corps eucharistié, celui que nous recevons à travers la célébration de l'Eucharistie sous les espèces du pain et du vin, et enfin le corps ecclésial, c'est-à-dire ce qui découle du fait pour nous de recevoir le corps et le sang du Christ. Ces trois dimensions renvoient en réalité à la même chose. Elles sont intrinsèquement reliées les unes aux autres. On ne peut pas, si on est sérieux et cohérent, recevoir le corps du Christ et œuvrer pour les divisions, par exemple, dans nos familles, dans nos communautés, dans les espaces où nous vivons au quotidien. Recevoir le corps du Christ, c'est recevoir Jésus pour pouvoir être partout où nous sommes des facteurs d'unité, des partisans de l'unité. C'est un devoir qui est attaché à notre identité chrétienne, un devoir qui est attaché au fait pour nous de recevoir la communion, de recevoir le corps et le sang du Christ. Au Concile de Trente, l'Église reçoit une longue tradition de pensée philosophique inspirée d'Aristote. Et Aristote aura tellement influencé la pensée, y compris celle de l'Église, il aura tellement influencé le discours théologique qu'il va même influencer le cœur de notre vie de foi, c'est-à-dire le mystère que nous célébrons dans l'Eucharistie, dans la messe. Et cette influence est traduite par une expression, et on va terminer par là, j'espère que je ne vais pas trop déborder, pour désigner ce qui se passe pendant la messe et qui fait que ces simples hosties et ce vin que l'on peut acheter dans n'importe quel supermarché deviennent le corps et le sang du Christ. L'Église s'est servie à partir du Concile de Trente d'une expression, la transsubstantiation. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler, et je sais que c'est jamais évident cette notion. Ce n'est pas évident, surtout si l'on considère que l'Église, en accueillant, en recevant ce concept, cette notion, a un peu trahi la vision philosophique de laquelle elle s'est inspirée. Parce que chez Aristote, chez son maître Platon et chez tous ceux qui, comme eux, sont des essentialistes, la substance, c'est précisément ce qui ne change pas. Or, la théologie catholique enseigne que par les paroles de consécration, la substance du pain et celle du vin changent pour devenir le corps et le sang du Christ. Je suis triste pour Aristote, mais je suis heureux de savoir cela. Je suis heureux de savoir qu'on est capable de prendre appui sur un socle et le dépasser et aller à un niveau encore plus important. Parce que, entre nous, si le pain et le vin ne changeaient pas substantiellement, évidemment, la présence réelle, ça poserait problème. Mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas pour garantir la présence réelle que l'on a employé cette expression. C'est parce qu'on l'a constaté d'abord. Ensuite, on a voulu dire ce que l'on observe, ce qui se passe, ce qui s'opère à travers les paroles de consécration. Et alors, on a pris cette expression, on a emprunté à la philosophie cette expression pour dire « La substance du pain et du vin sont transformées, sont changées, sont transsubstantiation, justement, changement de substance, pour ne plus être simplement du pain, la levure, la farine, enfin, du pain sans levure, je pense, ouais, pour ne plus être cela, mais pour devenir le corps, réellement le corps du Christ, et pour devenir réellement le sang du Christ. Les miracles eucharistiques, vous en avez peut-être entendu parler, ont achevé de convaincre les plus sceptiques quant à la réalité de la présence réelle. Évidemment, on peut toujours en douter, ça fait partie de notre humanité, et c'est encore bien d'ailleurs, parce que ça nous rappelle aussi que cela suppose la foi, comme le dit Saint Justin dans le passage que l'on vient de voir. Parce que le profane qui arrive dans une église, quand le prêtre fait l'élévation, il voit un morceau de pain blanc, voit pas autre chose. Mais moi qui l'élève à ce moment, vous qui participez à la célébration avec foi, vous savez qu'il ne s'agit plus là de cette farine et de ce vin, il s'agit vraiment du corps et du sang du Christ à cause de la dimension sacramentelle par les paroles qui ont été prononcées par le prêtre. Non pas parce que le prêtre a un pouvoir magique, mais par le fait de la grâce, et qu'on parle de sacrement comme la grâce. En fait, ce n'est pas un mérite, c'est pas, il n'y a pas une formule qui est toute faite, qu'il suffit de la prononcer, et puis quelque chose, sinon ce serait un tour de magie, on ne fait pas de la magie. C'est une réalité de foi, il n'y a qu'avec la foi qu'on peut l'aborder. Mais il faut aussi être conscient qu'on ne peut pas saisir ce mystère dans sa totalité, sinon, encore une fois, il cesse d'être un mystère. Par le fait donc, par ce mot transsubstantiation, l'Église veut simplement exprimer ce qui se passe sacramentellement à travers les paroles de la consécration. Les substances du pain et du vin sont changées mystérieusement pour devenir le corps et le sang de Jésus. Ce n'est pas l'Église qui le fait en premier, elle l'a reçu de Jésus lui-même. Elle s'est juste employée à exprimer cette réalité dans le langage de son temps. Quand Jésus dit « Prenez, ceci est mon corps », ce n'est pas sa chair qu'il donne. C'est vraiment du pain qu'il rompt et qu'il donne. Et par les paroles qu'il a prononcées sur ces réalités matérielles, il a établi qu'il s'agissait de son corps, de sa chair et de son sang. Et c'est cela que l'Église a reçu et qu'elle continue de célébrer et qui constitue le cœur de notre identité, le cœur du mystère chrétien. Vous l'avez vu, chers amis, je n'ai pas voulu ce soir nous entretenir sur les différentes articulations de la célébration eucharistique parce que ça, vous le vivez au quotidien et vous en dire beaucoup plus. Peut-être mieux que moi. J'ai voulu que nous entrions un peu plus, j'espère y avoir contribué, dans la compréhension de ce qui se passe réellement quand nous célébrons l'Eucharistie. Par l'Eucharistie, nous sommes au cœur du mystère chrétien. Et cela ne nous oppose pas à nos frères pour qui la messe est une réalité tout à fait secondaire. Mais cela nous rappelle simplement que ce qu'ils considèrent comme le cœur, nous aussi nous le considérons comme le cœur, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ. Et nous avons choisi de donner écho, de répondre à l'invitation du Christ qui a bien voulu que ce cœur-là, sa mort et sa résurrection, soient actualisés dans le quotidien des hommes. Et c'est cela que nous célébrons à travers la messe. Je vous remercie. Non, je ne sais pas s'il est prévu. Laurent, est-ce qu'il est prévu? Non, voilà. Donc, il y a la messe à 7h30. Voilà. Il est 16h12, donc je suis dans le temps. J'avais peur de déborder, j'ai dû faire des choix. Nous allons donc, ceux qui n'ont pas été à la messe, nous préparer pour la messe tout à l'heure. Et je voudrais, si vous me permettez, non pas revenir, parce que ça ne sert à rien d'avoir parlé tout ce temps et de revenir encore, mais juste souligner quelque chose que je considère comme important, c'est de nous rappeler que la messe, c'est vraiment notre identité comme chrétien catholique. Et ce n'est pas un rituel à côté d'autres rituels. Jean-Paul II, j'aurais pu parler de lui, mais j'ai fait le choix de ne pas parler de lui, parce que je n'aime pas, au contraire. Disait, en s'inspirant de l'enseignement du Concile Vatican II, que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie de l'Église. C'est la source, c'est là où on va puiser. Le sommet, c'est ce vers quoi nous tendons, vers quoi nous allons. Et donc, dans l'Eucharistie, nous sommes vraiment dans ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à être. nous puisons les grâces, les forces, tout ce dont nous avons besoin pour cheminer et arriver au sommet, c'est-à-dire dans l'intimité avec le Christ. Et vivre l'Eucharistie suppose une certaine préparation. C'est tellement précieux, c'est tellement, peut-être qu'on ne s'en rend pas toujours compte, parce qu'il y a une certaine habitude qui s'installe, et puis ça devient un peu banal. Ce type de moment doit avoir pour effet de nous rappeler que la liturgie ne doit jamais être, la messe en particulier, ne doit jamais être quelque chose de banal dans notre vie. Il faut y accorder un soin particulier. Au séminaire, un de nos formateurs nous disait, quand quelqu'un n'avait pas bien préparé, il dit non, l'improvisation, il faut la laisser aux artistes. La liturgie, c'est pas un concert, c'est pas un spectacle, c'est un moment sérieux, tellement sérieux qu'il faut le préparer. Pas seulement pour les acteurs, les ministres qui vont intervenir, mais pour tous ceux qui viennent célébrer, parce que c'est vous et moi qui célébrons ensemble. Le prêtre ne célèbre pas tout seul, et heureux Concile Vatican II qui nous a permis de le comprendre, qui nous a rappelé que la liturgie est une action de l'Église. Et l'Église, ce n'est pas le prêtre seul. L'Église, c'est le corps du Christ, composé de plusieurs membres, vous et moi, vous et nous, tous ensemble. C'est ensemble que nous célébrons. Il y a un président, parce qu'il faut bien que les choses soient organisées, c'est sûr, mais le rôle de présidence n'est ni un mérite, ni un privilège. Il faut voir les choses s'étendre, sinon on nourrit les débats parfois peu pertinents, que l'on peut dire ça et là aujourd'hui. Le rôle de présidence, c'est pour conduire simplement, parce qu'en réalité, c'est nous tous, ensemble qui au fond. Et si on permet que l'on vient offrir à Dieu quelque chose, il faut se préparer, il faut se disposer. Il faut méditer les textes chez soi avant de venir, il faut les lire. Quand on a préparé, quand on a lu les textes avant, on arrive à la messe, l'homélie vient en fait pour apporter des éclairages sur les éléments qu'on n'a pas saisis, ainsi de suite. Mais si l'on vient et voilà, on découvre tout là au même moment, c'est un peu. On ne reçoit pas toute la richesse en réalité du mystère que nous célébrons. Donc, je prends ce petit moment pour nous inviter à cela, à réaliser le sérieux avec lequel il nous faut préparer nos participations à l'Eucharistie. Moi, je suis toujours édifié quand je vais à Vermouillet, une célébration le matin, je ne sais pas. En général, le Père Christian, il arrive avant moi, je le trouve toujours devant le Saint-Sacrement. Il est là un quart d'heure, voire une demi-heure avant, très concentré, très dans la prière, parce que ça permet de comprendre le sérieux avec lequel il faut vivre ce qui va se passer après. Vrai qu'il en soit aussi de même pour nous, ça nous gêne parfois d'arriver, de trouver l'église bruyante parce que on se donne des nouvelles, ça fait la misère, et tout. On est dans l'église et c'est un peu. Voilà, je ne fais pas de reproche à un juste pour prolonger ce bon moment de partage, pour nous inviter à une certaine intériorité aussi, parce que la routine peut facilement s'installer et si la routine s'installe, on passe à côté du mystère, on passe à côté de l'essentiel. Encore une fois, merci.